Et c'est Romain Oquet qui nous présente le journal de 7h. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. La fin du cauchemar en Gironde où la pluie et les pompiers étouffent progressivement les flammes. Le feu près de Landiras s'est désormais fixé, maîtrisé et les habitants autorisés à rentrer chez eux. Une respiration, un répit, même si sur le terrain le travail sera encore long, des jours, des semaines même pour éteindre toutes les braises. Près de 1000 pompiers restent mobilisés à ce stade et avec eux, des bénévoles qui assurent les repas, les soins des soldats du feu. Notre envoyé spécial en Gironde, Chloé Lagadou, a rencontré ceux du poste de commandement d'Ostens.
Les traits tirés, les pompiers rentrent épuisés sur le camp de base après des heures de travail. Et quand ils arrivent le matin, Pascal est là pour leur servir une bonne tasse de café.
Ils apprécient qu'on leur parle, ils apprécient le sourire, ils apprécient le bonjour du matin. Après beaucoup de fatigue, oui, mais toujours le sourire.
Et justement, quand ils sont fatigués, ils peuvent se diriger vers la table de massage. Christine met tout en œuvre pour prendre soin des pompiers.
Moi, je leur présente ça en disant, ok, vous vous mettez sur la chaise et c'est un peu une pause. Donc en fait, vous venez là. Et moi je vais vous rebooster, c'est moi qui vais vous donner de l'énergie et je pense qu'on est tellement reconnaissant, on a tellement tous envie de donner et à hauteur de nos compétences, moi je peux pas éteindre le feu, donc je me dis ok, ben je leur apporte juste de la détente.
Cette solidarité compte beaucoup pour Jérôme, ce sergent chef girondin est mobilisé sur les feux depuis plus d'un mois.
Ça nous prend au trip, ça nous prend au cœur. On n'a jamais vu ça de notre vie et je pense qu'on le vivra plus quoi. Mais quand on arrive, qu'on a fait des flammes et tout, qu'on arrive ici, qu'on rencontre tout ce monde, c'est très très bien.
Chaque jour les bénévoles se relayent pour servir près de 8000 repas. Et malgré la fatigue, il continue de soutenir les pompiers et ce, toujours dans la bonne humeur. À Ostens, Chloé Lagadou, Europe 1.
La calme aussi dans le Jura et la Drôme où les incendies sont fixés. Entre l'Aveyron et l'Auxerre, les flammes sont sous contrôle.
Une France brûlée, assoiffée aussi, qui traverse probablement l'un des étés les plus secs de son histoire. Le seuil de crise est atteint dans une soixantaine de territoires.
Alors comment gérer la ressource en eau? C'est la question qu'Europe 1 va poser toute cette semaine aux maires de France confrontés à cette sécheresse.
Bonjour René Hugo.
Bonjour.
Alors, vous dirigez la commune de Seyans dans le Var et vous avez imposé des restrictions d'eau. 150 litres d'eau par jour et par personne, c'est plutôt radical. Dites-nous comment les habitants ont-ils réagi?
Alors, je dois dire qu'au début, ça les a un peu surpris parce que nous étions des précurseurs à Seyans. Nous nous sommes retrouvés peut-être les premiers en France à manquer d'eau. Mais alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont bien compris la difficulté et tous sont très, très, je dirais, disciplinés au point que l'équilibre entre la production qui est quand même limitée et la consommation qui est tout aussi limitée, eh bien, est toujours maintenue. Et ils n'ont pas manqué d'eau, ça c'est le résultat qui est vraiment très satisfaisant et pour eux et pour nous. Mais en l'absence de pluie, les choses peuvent s'aggraver. Et c'est ce que nous redoutons beaucoup. Alors là, qu'est-ce qui se passera en septembre? C'est la grande interrogation et la grande incertitude.
Alors justement, les températures ne vont pas redescendre tout de suite hein, dans votre département du Var. Comment vous appréhendez les prochaines semaines?
Alors les prochaines semaines, bon, ça sera peut-être des contrôles encore auprès des usagers qui ne respecteraient pas. Mais ce sera surtout pour nous la mise en place d'un dispositif, parce que s'il y avait vraiment rupture, il faudrait rationner, il faudrait peut-être passer de 150 litres, qui est une norme nationale et qui permet d'avoir une vie normale, à sans doute 100 litres. Et 100 litres, c'est peut-être un minimum. Il faut espérer que l'eau revienne et que les choses s'équilibrent et que, partant de là, on puisse retrouver un cycle normal.
Effectivement, on vous le souhaite. Merci. Merci René Hugo, maire de Seyans, dans le Var.
Merci à vous.
Voilà la sécheresse qui transforme le Var et la France entière même en poudrière. Pour ne prendre aucun risque, une trentaine de départements a décidé d'interdire les feux d'artifice prévus ce soir pour le 15 août.
Et des festivités pour l'Assomption, fête catholique qui célèbre la Vierge Marie.
15 000 fidèles ont participé hier soir à une procession au flambeau à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Le récit de Frédéric Michel.
Le sanctuaire de Lourdes plongé dans la nuit, illuminé par des centaines de flambeaux, des chants religieux et prières entonnés. Il y avait beaucoup plus de monde que les années précédentes. Hier, dans le sanctuaire, la levée des mesures sanitaires liées au Covid y est pour beaucoup. Vincent Cabanac, le prêtre organisateur du pèlerinage.
Les personnes malades, quand elles ne pouvaient pas du tout sortir de chez elles, la perspective n'était pas du tout la même. Donc ça fait plaisir de voir leur visage. Ô combien souriant de venir ici dans ce sanctuaire. On n'est pas au top de ce qu'on avait avant, mais on est à peu près à 60% de ce qui venaient d'habitude.
Et cet afflux de pèlerins à Lourdes n'est toujours pas suffisant pour les commerçants locaux qui ont accusé de lourdes pertes pendant la crise du Covid. Eric, le gérant d'un hôtel de la ville, ne cache pas sa déception.
Tout le monde disait que ça allait repartir, que c'est formidable, que ça allait tout repartir. Je me rends compte, moi, que toutes les hospitalités que j'ai, elles sont à 50% que ce que j'avais en 2019, quoi. Si c'est pas encore moins, quoi. On est loin de retrouver la fréquentation d'une saison normale, là. Hein.
Et il faudra, précise l'hôtelier, encore quelques années pour que les fidèles reviennent aussi nombreux qu'avant la pandémie.
Frédéric Michel.
7h06 sur Europe 1. C'était il y a un an, jour pour jour, la descente aux enfers de l'Afghanistan.
15 août 2021, les talibans prennent le pouvoir après une offensive fulgurante. Depuis, le pays s'enfonce dans l'obscurantisme. Un rassemblement est organisé aujourd'hui Place de la République à Paris, une initiative de plusieurs ONG, parmi elles Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, son président Reza Jafari.
Ça fait un an qu'un groupe terroriste est à la tête de l'Afghanistan, ça fait un an que les minorités ethniques et religieuses en Afghanistan souffrent, ça fait un an que les enfants sont vendus à cause de la famine, que les majeurs vendent leurs organes pour pouvoir survivre et nourrir leur famille. Ça fait un an que 18 millions de femmes sont enfermées chez elles et qui n'ont aucun droit. Aujourd'hui, on a beaucoup d'intellectuels qui essayent de former une résistance en exil, mais malheureusement, ils ne sont pas du tout soutenus. Pour les 2700 Afghans qui sont arrivés en France juste après la chute de Kaboul, là, il y a eu un accueil qui a été organisé. Mais les mêmes Afghans qui ont fui les mêmes problèmes, mais qui sont venus par leurs propres moyens, il n'y a pas du tout d'accueil. Ces gens-là sont accueillis dans la rue et c'est qui organise l'accueil? C'est les associations, c'est nous.
Reza Jafari, président d'Enfants d'Afghanistan, est d'ailleurs contacté par Louise Douillet pour Europe 1.
Notez qu'à 7h40, nous serons en ligne avec Margot Ben, grand reporter au Figaro et co-auteur du documentaire Afghanistan, vivre en pays taliban. Nous parlerons avec elle donc de cet anniversaire, entre guillemets, du retour des talibans au pouvoir.
L'auteur de la saga Harry Potter menacé de mort sur Twitter, une enquête a été ouverte. J.K. Rowling avait écrit un message de soutien à Salman Rushdie. Tu seras la prochaine, lui a répondu un internaute. Salman Rushdie est hospitalisé après une attaque au couteau vendredi aux États-Unis.
C'est une visite qui réveille la colère de Pékin. Une délégation américaine a atterri hier à Taïwan.
Une arrivée surprise de parlementaires, une méthode qui agace la Chine, déjà irritée par la venue au début du mois de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Riposte de Pékin qui avait lancé plusieurs exercices militaires sans précédent. Taïwan accuse la Chine de préparer une invasion. Un scénario catastrophe pour François Xinchung, représentant de l'île en France.
Déjà, autour de Taïwan, nous avons la première puissance militaire qui est américaine, la deuxième qui est la Chine qui veut nous envahir, et la troisième qui est le Japon. Mais en dehors de ça, je pense que tout le monde est concerné. Parce que Taïwan produit plus de 60% jusqu'à 70% des semi-conducteurs du monde. Donc si la Chine déclenche une attaque militaire contre Taïwan, toutes ces exportations sont terminées. Et l'autre chose, c'est que la France, l'Europe, tout le monde a aussi beaucoup d'investissements en Chine. Quand vous regardez vos investissements en Russie, en Ukraine, la guerre n'a pas simplement atteint vos investissements en Ukraine, mais également en Russie. Et en plus, avec toutes les puissances militaires sur place qui veulent le statu quo, je crois que ce sera vraiment un désastre mondial et qu'il faut à tout prix que tout le monde se sente concerné, essayer de prévenir et aussi faire de la gestion pour que cette guerre mondiale ne se déclenche pas.
François Xinchung, représentant de Taïwan en France, joint par Alexandra Gégy pour Europe 1. 7h09 du football et Marseille rattrapé par Brest hier soir. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un partout en clôture de la deuxième journée de Ligue 1.
Et le PSG occupe seul la tête du classement, une première place grâce à sa victoire face à Montpellier samedi.
Oui, c'était le premier match de la saison au Parc des Princes et déjà les premières tensions, cela concerne les deux stars de l'équipe, Neymar et Mbappé. Tout est parti, vous allez comprendre, d'une histoire de pénalty tiré face au Montpellierin. On récapitule avec Gaspard de Vaubicourt.
Va-t-on avoir le droit à une saga à la Kardashian au PSG? Deux pénaltys pour les Parisiens durant la rencontre. Mbappé, désigné par Galtier avant le match, tire le premier et le rate. Neymar prend le ballon, tire le second et marque. De quoi créer des tensions entre les deux hommes? Eh bien oui, selon notre consultant Jimmy Algerino.
C'est vrai que ce début de saison, on a presque même entendu. Donc si tout ça se révélait, ça peut donner un peu l'envie que le plein Mbappé aurait souhaité le départ de Neymar.
Tout aurait pu s'arrêter là, mais avec le PSG, rien n'est jamais simple. En cause, un Mbappé boudeur durant toute la rencontre et de l'autre, trois likes du Brésilien sur des tweets issus de comptes fans du numéro 10 parisien, critiquant le choix de Mbappé en tant que premier tireur. Un problème d'ego donc que Christophe Galtier va devoir gérer pour ne pas ternir le beau début de saison de son équipe.
Gaspard de Vaubicourt du service des sports d'Europe.
Lionel, alors on fête aujourd'hui l'anniversaire d'une icône des années yéyé. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je crois que vous étiez né d'ailleurs. Retour en 1964.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser.
Ah, ouais.
Facile.
Sylvie Vartan, évidemment.
Qui fête ses 78 ans. Idole de jeunesse ou pas d'ailleurs, Lionel?
Idole entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est toute une génération, Sylvie Vartan, qui fête son 78 ans. Éternelle Sylvie Vartan. Merci Romain Oquet. C'était le journal de 7h. À tout à l'heure.